France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, sorti en 1936, s'ouvre sur le plan d'un énorme mécanisme horloger dans lequel les petites et les grandes roues s'enchaînent fatalement. Charlot se laisse couler d'un rouage à l'autre et, incapable de freiner le système, il s'adapte de moins en moins bien au rythme qui s'accélère du temps qui passe. Le message et son symbole sont clairs. Le film, c'est l'histoire de ces temps modernes de l'industrie où le temps de travail, justement, de l'ouvrier, est mesuré à la seconde près, où l'horloge impose sa tyrannie et broie petit à petit ce qui reste d'humanité. Dans le travail à la chaîne taylorisé, toutes les tâches sont automatisées, y compris celle de manger, dans l'unique but de gagner en productivité et donc en rentabilité. Les cadences de plus en plus folles imposées à Charlot produisent des scènes absurdes, comiques et terribles. Le film raconte un processus de déshumanisation en route. L'ouvrier, devenu fou, quitte son travail, se met à vagabonder et au terme de 1000 aventures, trouve un espoir, faible certes, mais dans l'avenir, incarné par une jeune danseuse, Paulette Godard. Un siècle plus tard, ou presque, même si le travail à l'usine a souvent été remplacé par les services à la personne, les cadences de travail sont toujours mesurées à la minute près et parfois les rythmes sont infernaux. C'est ce qu'on raconte tout de suite avec la vie de deux ouvriers de nos temps modernes à nous, une aide à domicile et un livreur. Deux récits recueillis par Timothée de Roglaudre.
Je m'appelle Sandra, j'ai 33 ans, j'habite à Caylus, dans le Tarn-et-Garonne, et je suis auxiliaire de vie depuis plus de 10 ans. J'ai grandi, on va dire, vers Castres, parce que j'étais dans un petit village, dans le Tarn. Ma mère est ingénieure informatique et mon père est menuisier aluminium maintenant. Alors, j'ai un parcours professionnel un peu chaotique et particulier. En fait, j'ai fait une école de journalisme, donc j'ai eu mon diplôme. J'ai pas trouvé de travail dans le journalisme parce que mon école est pas reconnue par la profession et parce que j'ai fait pigiste, mais c'était compliqué en termes financiers. Donc je suis partie à la fac à Toulouse, j'ai fait une licence de sociologie, suivie d'une licence de psychologie. Et en fait, je suis tombée dans le métier d'auxiliaire de vie un peu complètement par hasard. J'ai un ami qui m'a invitée sur des séjours adaptés, des espèces de colonies de vacances pour personnes en situation de handicap. Et en fait, je suis partie en séjour et je suis complètement tombée amoureuse du milieu. J'étais même déprimée quand je rentrais de séjour, enfin, ça a vraiment été un énorme coup de cœur pour moi. Et puis un jour, j'ai appris qu'en fait, j'étais pas juste obligée de partir en séjour pendant les vacances. Voilà, on m'a dit, écoute, si ça te plaît vraiment de t'occuper des personnes en situation de handicap, il y a un métier qui existe pour ça, ça s'appelle auxiliaire de vie. Enfin, à l'époque, on disait pas auxiliaire de vie, on disait plutôt aide à domicile dans le meilleur des cas. Sinon, c'était principalement aide ménagère, hein, ce qui n'a rien à voir d'ailleurs. Et donc, j'ai commencé comme ça, en fait, complètement par hasard, il y a plus de 10 ans. Ma boîte actuelle, je l'ai trouvée sur Internet, tout simplement parce que je cherchais une autre boîte qui avait de meilleures conditions de travail, même si c'est compliqué dans le métier. Mes boîtes précédentes, c'était vraiment trop une catastrophe. Donc, voilà, j'ai changé de boîte juste pour travailler dans de meilleures conditions. Moi, j'ai un tout petit contrat, par choix personnel. Je fais pas beaucoup d'heures. Je fais un week-end sur deux, en fait. Donc, deux week-ends, donc ça fait quatre jours, c'est pas grand-chose. Et je suis rémunérée à hauteur environ de 400 euros. Alors moi, je travaille en 12 heures, donc c'est des journées qui sont assez longues. C'est un choix personnel, parce que je préfère maintenir un lien et une confiance et avoir du temps pour le lien social aussi, ce qui me paraît important dans le domicile, surtout. Donc, une journée type, c'est je pars à 7h30, j'arrive à 8h. Dès que j'arrive, il faut pointer de suite, ce qui est assez contraignant, parce que Des fois, on arrive, la personne, elle est dans un profond mal-être, ça arrive très souvent. Et dès qu'on a passé la porte, la première chose à laquelle on pense, c'est sortir le téléphone et pointer. C'est pas hyper accueillant, en fait, et chaleureux d'arriver chez la personne et de dire « Attends, deux secondes, il faut que je pointe ». Moi, je trouve ça hyper violent comme entrée en matière. Donc, on pointe. Ensuite, ça dépend de l'autonomie de la personne. Moi, j'ai une personne qui est extrêmement dépendante. Donc, ça va être faire une toilette, ça va être l'habiller, la lever, préparer et lui donner le petit déjeuner et les médicaments. Ensuite, on essaye d'avoir des activités avec elle. C'est assez compliqué parce que c'est une personne qui ne parle pas. C'est une personne qui est difficilement là psychologiquement. Donc, on lui fait un petit peu de musique. Ça marche très bien, la musique. De la lecture. Donc, voilà. Après, c'est le repas du midi. Donc, il faut le préparer. Le repas, les médicaments. Après le repas, elle a l'habitude de faire une sieste. Donc, je lui fais une toilette pour la mettre à l'aise, tout simplement. Et je la mets au lit, donc on fait un transfert avec un lève-personne. Et puis ensuite, l'après-midi, généralement, on essaye de la stimuler un petit peu physiquement, sans trop, parce que c'est une maladie où elle bouge, elle a beaucoup de gestes incontrôlés, en fait, donc elle bouge beaucoup d'elle-même. On la met sur ce qui s'appelle un verticalisateur, donc c'est un appareil qui permet de mettre debout une personne, en fait. Et puis, moi, je vous avoue qu'étant une grande danseuse, je la fais danser un petit peu, parce qu'elle a fait de la danse avant la maladie aussi, donc ça lui plaît, elle réagit beaucoup. Donc, on danse un petit peu, je chante, voilà, j'essaye d'égayer un petit peu son quotidien comme je peux, quoi. Et ensuite, le soir, c'est un petit peu le coup de speed. En fait, c'est surtout speed le matin et le soir. Parce que le soir, il faut enchaîner le repas du soir, médicaments encore une fois, la toilette pour la nuit, et puis la préparation au coucher. Et puis après, la journée s'arrête et il faut pointer encore une fois. Voilà. La pointeuse, j'ai découvert ça il y a 5 ans dans ma boîte actuelle. Alors, je sais qu'il y a plusieurs systèmes de pointage. Nous, dans ma boîte, c'est une application qu'on a sur le téléphone, bien sûr, notre téléphone personnel. Donc, ça nous demande quand même d'avoir un smartphone. Il faut une application, il faut passer par Internet. Il y a un QR code qui est affiché chez la personne, donc on doit flasher le QR code avec notre téléphone et ça enregistre le pointage sur l'application de la boîte en question. Il y a possibilité, parce que j'ai beaucoup de collègues qui ne peuvent pas se permettre d'avoir des smartphones, il y a possibilité de pointer par appel téléphonique avec un numéro. Le système de pointage, il est mis en place pour des questions administratives et de gestion, surtout. Après, beaucoup de mes collègues le vivent comme une surveillance, vraiment. C'est très mal vécu, le pointage dans le métier. Parce que, enfin, on arrive, on pointe, on s'en va, on pointe, on pointe, on pointe, on pointe. On pointe tout le temps, en fait, chez tout le monde. Et on a vraiment l'impression d'être suivi, vraiment, à la trace, partout où on va. Et après, c'est sécurisant aussi, dans un certain sens, ce que je peux entendre pour la boîte, parce que ça sécurise le fait que l'auxiliaire de vie est bien là. Après, l'excuse, enfin, moi j'appelle ça une excuse, cette excuse de sécurité, j'ai eu vu une collègue qui pointait, qui partait boire des cafés en ville et faire du shopping avec ses copines, qui revenait et qui repointait. Donc, cette sécurité de faire que l'auxiliaire est là, ça ne la permet pas vraiment, en fait. Donc, c'est contraignant pour nous, c'est contraignant pour le bénéficiaire aussi, parce que c'est assez horrible à vivre, en fait, de voir son auxiliaire arriver et de suite se jeter sur le téléphone et pointer. Ça fait vraiment usine, quoi. Et quand on fait de l'humain, je trouve que tout ce qui rapporte un petit peu à tout ce qui est mécanisation, c'est pas super, quoi. Alors, on a un concours au sein de ma boîte, mais je pense que ça doit se faire dans plusieurs boîtes, à mon avis. C'est un concours de pointage. C'est assez horrible, dit comme ça. En fait, l'auxiliaire qui a pointé, c'est pas tellement le plus, mais le plus efficacement, en fait, elle est récompensée. Alors, c'est rarement une prime financière, hein. C'est surtout des petits cadeaux ou des genres de diplômes au pointage. Des fois, ils nous promettent une prime, une centaine d'euros, dans ces alentours-là. Je ne l'ai jamais gagné, donc je ne peux pas vous dire si la prime est vraiment versée. Je crois que le gros problème avec le pointage, c'est les situations d'urgence qui ne sont pas prises en compte et qui arrivent très souvent. Un exemple très concret, j'ai fini mon intervention, je pointe pour partir, et au dernier moment, la personne se fait dessus. Ou tout bête, hein, elle a juste envie d'aller aux toilettes au moment où j'ai pointé après. On ne choisit pas ces moments-là non plus, quoi. Et moi, je ne pense pas que ça existe, des auxiliaires de vie qui vont dire « Ah ben non, j'ai pointé, c'est plus l'heure, tu te débrouilles, quoi, et tu restes dans tes excréments ou tu te fais dessus, voilà. » Aucune auxiliaire de vie ne fait ça. Donc forcément, quand ça nous arrive, et ça nous arrive très souvent, ben, en dehors du pointage, donc en dehors du temps compté, ben, on amène la personne aux toilettes. C'est énormément de temps, un transfert, les gens ne se rendent pas compte, mais il faut mettre la personne souvent dans une machine, il faut la déposer sur les toilettes, et puis on ne va pas être derrière la porte à lui dire « Dépêche-toi, faut que j'y aille ». Personne ne fait ça. Donc c'est du temps en plus qui est quand même souvent conséquent. Ça prend plus d'une demi-heure déjà, facilement. Et puis même en cas de change à faire d'une protection au dernier moment, ça aussi, ça prend du temps de changer une personne parce que généralement, on ne peut pas changer une protection sur un fauteuil roulant, par exemple. Donc c'est un transfert, c'est une toilette à faire. Et du coup, ça fait qu'on a pointé, ce temps n'est pas pris en compte. Donc l'agence ne sait pas qu'on a passé ce temps-là en plus. Et souvent, on arrive très en retard à la prestation d'après parce que ces temps-là ne sont pas comptés, quoi. On arrive des fois à pointer après, en fait. C'est possible parce que des fois, au dernier moment, avant qu'on pointe, la personne a une urgence ou un besoin particulier. Donc là, dans ce cas-là, on fait le soin et on pointe après. Donc leur sup est notifié sur le pointage. Après, c'est une heure sup qui ne va pas être payée dans la plupart des cas. Et puis, quand elle l'est, c'est à la charge du bénéficiaire. Donc ça aussi, c'est compliqué parce qu'il paye un surplus, en fait. Et il y a beaucoup de mes collègues, et je le sais parce que j'en fais partie, on n'a pas envie que notre bénéficiaire paye un surplus parce que voilà, on est dans l'humain et qu'on n'est pas dans la clientèle et dans la vente absolue de quelque chose et qu'on essaye toujours de faire au mieux pour la personne et qu'elle ait le moins de choses à payer aussi. Oui, c'est souvent des temps qui ne sont pas du tout comptés du tout, en fait. On nous menace souvent en nous disant que si on ne pointe pas, on ne sera pas payé. Ça, c'est une menace qu'on entend très fréquemment. On reçoit des mails de rappel sur les pointages et c'est toujours notifié que si on ne pointe pas, on ne sera pas payé. Pour en avoir reçu un, parce que j'avais oublié une fois, je sais à quoi ça ressemble, on a des mails automatiques. Hein. Et en termes de discours dans ces mails-là, c'est quand même des discours qui sont très culpabilisant pour l'auxiliaire, puis vraiment sur le fait que le bénéficiaire va avoir des problèmes avec la MDPH, en fait, donc c'est la maison départementale des personnes en situation de handicap, c'est ce qui s'occupe de leurs prestations, de toute leur vie, en fait, de manière générale. Apparemment, ça envoie directement les heures qu'on fait à la MDPH, qui peut vérifier, en fait, si les heures pour lesquelles elle verse des prestations aux personnes sont respectées ou pas. Voilà. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on nous dit ça pour qu'on pointe? Ça, je ne peux pas vous dire. Parce que bon, menacer une auxiliaire de vie de ne pas être payée, au vu des salaires qu'on a, c'est pas une menace qui marche beaucoup. Donc, ils trouvent d'autres systèmes pour nous faire culpabiliser. Et ce qui marche le plus avec une auxiliaire de vie, c'est le bien-être de son bénéficiaire. Donc, c'est très facile. Ils font ça tout le temps parce qu'ils savent que ça marche très bien. On fait ce métier pour l'humain et parce qu'on aime les autres. Donc forcément, si on nous dit clairement que ce qu'on fait, ça fait mal à l'autre et que ça fait mal à notre bénéficiaire, ben forcément, on marche, quoi. Et ça, toutes mes collègues, je pense que j'ai pas de chiffre officiel, mais 100% des auxiliaires de vie font ce métier pour le bien-être des gens. Donc c'est vraiment un discours très très culpabilisant et moi personnellement ça me pose un énorme problème. J'ai quelques collègues qui sont complètement opposés au pointage et qui refusent catégoriquement de pointer, justement pour tout ce qu'on a évoqué précédemment, parce que c'est pas humain, principalement, et qu'on n'est pas à l'usine, pour le dire grossièrement. Moi je pointe parce que c'est vrai que je m'oppose à ce système, mais j'y participe, j'avoue. Je pointe parce que j'ai d'autres préoccupations à gérer sur nos conditions de travail. Mais c'est vrai que j'avoue que je pourrais mener ce combat-là. Parce que moi, mon cas est assez particulier. Je fais partie d'un collectif. On a écrit plein de propositions pour apporter des solutions dans ce métier. Et le pointage, c'est un de nos combats aussi. Ils sont bien au courant que ça nous pose un problème et que ça pose un problème aux bénéficiaires aussi. Alors, je vous avoue que le pointage, c'est un des rares points sur lequel on va être un petit peu en opposition, mais sur lequel on n'a pas vraiment trouvé de solution. On a trouvé beaucoup de solutions pour tout ce qu'on dénonce, mais le pointage, ça reste compliqué, parce que peut-être on pourrait faire un système comme quoi la personne appelle pour confirmer qu'on est là, mais là c'est pareil, ça demande à la personne de prendre son téléphone, d'appeler la boîte, et puis la boîte serait surchargée d'appels. Hein. Donc c'est très compliqué de trouver une solution concrète au pointage en fait, même si c'est un système qui est clairement pas humain. C'est vraiment le système de pointage en soi, de manière générale, qui met un stress dans le métier pour tout le monde en fait. Pour les auxiliaires, pour les bénéficiaires, parce que oui, on a le stress de pointer à l'heure, parce que faut pas oublier de pointer, parce que sinon on est pénalisé. C'est un outil qui est majoritairement plus stressant qu'utile. Je pense qu'en termes de santé mentale, le pointage, ça participe au stress qui conduit souvent au burn-out des collègues. Moi, en 10 ans de métier, j'ai fait que 3 burn-out. Alors, c'est deux poids deux mesures quand je dis ça, parce que quand je dis que j'ai fait que 3 burn-out, on me dit oh, ouais, c'est énorme. Mais en vrai, pour un métier d'auxiliaire de vie, en 10 années de métier, 3, c'est vraiment très très petit comme chiffre en termes de burn-out. J'ai des collègues, elles font un burn-out par an. Enfin, je crois qu'on est un des métiers où il y a le plus de burn-out.
Culture. Les pieds sur terre.
Alors, je m'appelle Kali, j'ai 29 ans. Je suis chauffeur-livreur dans le secteur de Vitrolles-Marignane et j'habite aussi vers là-bas. Donc, voilà. J'ai grandi dans le coin de Marseille, dans les quartiers nord, dans le 14e. Et après, je suis allé plus du côté de Bouc-Bélair, tout ce qui est Aix-en-Provence, tout ça. Mes parents font des petits jobs normaux. Mon père, il est monteur en pneumatique et ma mère est agent commercial. Avant de faire de la livraison, je faisais de l'intérim. Tout ce qui était dans le BTP, je faisais beaucoup de manutention aussi. Et j'ai commencé il y a 4 ans à être livreur dans ma boîte de sous-traitants. Je suis tombé sur une annonce de recrutement chauffeur-livreur sur Indeed, l'application. Et j'ai postulé dessus et j'ai été pris 2 jours après. Comme Chronopost, Amazon, on fait pareil de la livraison de colis qui peuvent aller d'une enveloppe jusqu'à des colis de 40 kilos. Dans la boîte de sous-traitance, on est une 20aine. Les dires de mon patron, c'est je recrute dans les quartiers. C'est plus facile à faire passer au niveau des contrats pour les jeunes. Vu qu'il n'y a pas de diplôme ou quoi, ben, le chauffeur-livreur, c'est le métier premier qu'on peut accéder. Comme je vous ai dit, en 2 jours, je l'ai eu le métier. Mon contrat il stipule 35 heures par semaine, de 6 heures jusqu'à 15 heures, avec 2 heures de pause par jour. Et c'était bien 6 heures, 15 heures, sauf qu'il n'y avait pas les heures de pause. Donc on donnait 2 heures à l'employeur gratuitement. et on s'est pris la période du Covid. C'était particulier parce que les livraisons, elles étaient énormes à faire. Il y avait beaucoup plus de personnes qui commandaient à la maison. Maintenant, on est bien sur du 6h, 17h, 18h, sans heure de pause. Et une journée vraiment galère, on peut finir à 19h, 20h, facilement. En moyenne, on fait entre 90 et 100 livraisons à la journée. C'est-à-dire qu'on s'arrête 90 à 100 fois par jour, sans compter qu'il y a 3 heures qu'on passe au dépôt entre le chargement du camion, le scannage et tout ce qui s'ensuit, l'arrivée sur zone, hein, parce que nous, notre dépôt, il est à Vitrolles. Le temps de monter sur une zone, par exemple à Saint-Cana, on met facile déjà 1 heure à monter, 1 heure pour redescendre. Donc il nous reste que 2 à 3 heures de livraison. Et un livreur confirmé peut livrer 15 colis de l'heure, grand maximum selon la zone. On devrait livrer que 30 à 45 colis par jour. Alors que là, on en livre entre 90 et 100, et les gros jours, on peut monter à 120, 130. Mais pas tout le monde a la même quantité de livraison selon son secteur. Moi, par exemple, je me suis déjà retrouvé sur des secteurs à 60, 70 livraisons. Et comme du jour au lendemain, ils savaient que je savais très bien livrer, ils m'ont mis sur des plus gros secteurs qui allaient jusqu'à 120 à 140 livraisons. Et là, c'est le double de travail, alors qu'il y en a qui font encore 70 livraisons. Si dans le secteur, par exemple, Aix-en-Provence, le côté nord de Aix, tous les colis qui seront affectés à cette zone, je devrais les prendre. Personne d'autre va venir m'aider ou quoi que ce soit. Si j'en ai 100, 200, c'est ma zone, c'est à moi de la prendre. C'est comme ça que ça marche. Plusieurs fois, j'ai été malade, soit j'ai pas pu être là, même quand je prévenais pour un congé ou quoi. Ça arrivait que des fois les colis restaient par terre et je devais les refaire le lendemain, en plus de ma tournée du jour. Et on est payé au même salaire toujours, c'est ça le problème. Je suis à 1700 euros, net. Quand on a des colis de taille importante de type 30-40 kg, on le livre de nous-mêmes et on se débrouille. Hein. Si le client ne peut pas descendre et nous oblige à le monter, c'est soit on lui monte, soit on se le retape le lendemain parce qu'on doit le ramener au dépôt, le reporter. Donc souvent on va le monter par pas vouloir le récupérer, quoi, tout simplement. Quand il y a 15 étages sans ascenseur à monter, les 15 étages, on les monte, ça peut être des sacs de croquettes, 30-40 kg. Dans le monde du chauffeur-livreur, on va constater qu'il y a beaucoup d'arrêts maladie dus aux conditions de travail, dus au fait que tout le monde se fait mal au dos bizarrement là-bas. Moi, de base, je suis quelqu'un qui faisait beaucoup de sport. Hein. Chauffeur-livreur, maintenant, c'était devenu mon sport. Je pouvais même plus aller faire du sport après parce qu'en faisant chauffeur-livreur, on arrive à la maison, on est complètement crevé. Être chauffeur-livreur, ça m'a dû de faire un pneumothorax au travail pendant que je portais. Mais voilà, quoi, ça implique beaucoup de choses d'être chauffeur-livreur. On est sur la route tous les jours, donc on est amené à faire des accidents beaucoup plus qu'un automobiliste normal. Si on respectait le code de la route, bien évidemment qu'on ne ferait pas d'accident. Mais avec ce boulot, on ne peut pas respecter le code de la route. Quand on roule, on doit appeler le client pour qu'il descende. Donc on l'appelle 5 minutes avant, on est sur la route, on prend des ronds-points. Et voilà, quoi, on s'arrête à un warning sur le côté, tout le temps hors la loi. Et on roule totalement plus vite que ce qu'on nous autorise de base au code de la route. Ceci est dû au fait que on aimerait finir tôt et ce n'est pas possible avec ce travail. Du coup, on roule de plus en plus vite pour essayer de finir tôt, mais c'est toujours pas possible. C'est les seuls moments où on essaie de gagner du temps. Sinon, on finit trop tard et on peut pas faire ce que le patron nous demande. Et les statistiques sont pas respectées et là, ça en vient beaucoup de menaces. Dernièrement, j'ai fait un peu du forcing avec mon patron au niveau de mon contrat. Je voulais qu'il soit respecté au niveau de mes horaires. Et donc, je lui ai dit qu'à partir de maintenant, j'allais livrer le nombre de colis que je peux livrer en fonction de mes horaires. Chose que j'ai faite pendant 2-3 jours. Sur une journée à 90 colis, j'ai pu exécuter que 45 livraisons. Et du coup, j'ai dû ramener 45 retours au dépôt. Sauf que mon responsable était totalement affolé parce que 45 retours, c'est impossible à faire. Du coup, de lui-même, après sa tournée, il est venu, il a dû finir mes 45 points parce que S'il revient avec 45 retours, c'est pénalité et c'est des grosses amendes qui se prennent. Ils se prennent des amendes du donneur d'ordre. Au final, à l'heure d'aujourd'hui, je suis en licenciement parce qu'il a trouvé n'importe quel prétexte pour pouvoir me licencier. En fait, il voulait juste se débarrasser de moi juste avant ce licenciement. C'était mise à pied conservatoire parce que je respectais pas les statistiques, les performances, parce que, bien évidemment, je revenais, je faisais mes pauses de 2 heures. Je pouvais pas livrer tout ce qu'il me demandait, du coup. C'était des mails de menaces, de « aujourd'hui, tu prends ça et tu te tais ». Sauf que moi, c'était pas comme ça. J'ai un contrat, il est comme ça. Si vous voulez que je fasse plus, s'il y avait pas de souci, je ferai plus, mais on revoit le contrat. Il n'a pas voulu et il a tout fait pour me sortir du circuit. Actuellement, je conteste mon licenciement avec un avocat, mais mon patron le sait, il n'est pas droit dans ses bottes. Je suis en préavis. Le patron m'a demandé de ne pas venir travailler, il m'a destitué de mon poste, mais il me paye mon salaire net intégral. Donc actuellement, je suis à la maison pendant 2 mois. Je peux trouver un autre emploi, mais je ne peux pas faire de formation. Moi, c'est ce qui m'intéresse, aller faire une formation et voir d'autres horizons et pas... replonger ma tête dans un emploi facile à prendre comme ça et au final avoir des galères comme ça. Il y a beaucoup de salariés qui ne témoignent pas aujourd'hui parce que oui, ils ont peur de se faire remplacer du jour au lendemain, parce que oui, ce métier c'est un recrutement sur une application où on te dit bah, tu viens, on te paye tant et tu fais tant d'heures. On est tellement content qu'on vient et au final bah, on rentre dans un gouffre, on commence à faire des crédits, on est en CDI. On ne veut pas perdre le boulot, ouais, comme tout le monde. Voilà, moi, j'ai eu cette force. Et j'espère que beaucoup l'auront. Hein. C'est juste, en fait, faire respecter son contrat. Si le patron ne veut pas faire respecter son contrat, ben, c'est que tu n'as rien à faire là. C'est va ailleurs et fais une formation et va voir ailleurs. Tout simplement, essaie de faire ce que tu aimes.
Rob, 19.2, top. 18.4, mate, middle. Job seeker, can a strongbow, I'm a mess. Desperately clutching on to a leaflet on depression. Supplied to me by the NHS. Is anyone's guess how I got here?
C'était La Cadence, un reportage de Timothée de Roglaudre réalisé par Nathalie Salle et Éric Lancien. Merci à Sandra, à Kali, à Anne Losseg du collectif national La Force Invisible des Aides à Domicile, ainsi qu'à Hervé Street de l'Association de Défense des Sous-Traitants Transport France. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Mina Morel. My signing on time supposed to be 10 past 11. It's now 12 o'clock and some of you strange bastards need executing. Mr. Williamson, your employment history looks quite impressive. I'm looking at 3 managerial positions you previously held with quite reputable companies. Isn't this something you'd like to go back to? Nah, I just end up fucking robbing the place. You got a till full of 20s looking at your day? Well, I'm either gonna fucking bank it, I've got drugs to take and a mind to break. Job seeker, can a strongbow, I'm a mess.